Sidermed Semian est journaliste et écrivain. Il a notamment été journaliste au quotidien Le Matin, dans lequel il a tenu une chronique de 1999 à 2002. Aujourd'hui, Sidermed Semian est en France, car il a été inquiété par la justice dans son pays, en Algérie, et à ce jour a été condamné à 6 mois ferme pour des propos contre le ministère de la Défense. Mais Sidermed est donc aussi écrivain, puisqu'il a publié il y a quelques mois un livre aux éditions de La Découverte, au refuge des balles perdues, livre dans lequel il nous propose une sélection des chroniques qu'il avait publiées dans Le Matin. Et ces chroniques sont introduites de longs textes dans lesquels il revient sur la situation en Algérie depuis 1988. Sidermed était présent à Figeac le 5 octobre dernier à l'invitation de l'association Le Chêne et l'Olivier et de la librairie Le Livre en Fête. Pourquoi à Figeac, me direz-vous, chers Parisiens? Tout simplement parce que c'est ici que Sidermed Semian a terminé son livre, Au refuge des balles perdues, aidé en cela dans le cadre d'une résidence par l'association Le Chêne et l'Olivier, qui travaille avec l'Algérie et des Algériens depuis de nombreuses années. Cette soirée était clôturée par un concert de Cheikh Sidi Bémol, lui aussi algérien et farouche défenseur des droits de l'homme en Algérie. Vous entendrez dans le montage que j'ai réalisé quelques extraits de ce concert et également des lectures qui viendront alimenter l'entretien avec Sidermed Semian. Mais tout d'abord, en préambule, Sidermed revient sur le choix de cette date du 5 octobre, un choix, vous allez le comprendre, qui n'est pas anodin.
Concernant donc le 5 octobre, oui, quand Patrick Georges et Katia m'avaient demandé de faire un truc ici à Figeac, j'ai tout de suite pensé au 5 octobre. D'abord parce que c'est les premiers mots du livre, et puis parce que c'est une date qui m'a marqué. Il y a des dates comme ça qui provoquent des tremblements de terre, des tremblements de tête comme ça, qui bousculent les choses, parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais des chars à Alger. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ces chars-là sont en fait destinés à tirer sur des gens comme nous, c'est-à-dire que leurs canons étaient dirigés sur nous, sur des jeunes, sur des camarades de lycée, sur des étudiants, sur des gamins qui étaient sortis dans la rue pour manifester, pour exprimer une colère qui était là depuis des années, pour exprimer une frustration, pour exprimer le ras-le-bol. Et donc voilà, c'était une vision qui m'avait complètement bouleversé. Et c'est une date qui, je crois que c'est comme un lin, comme ça. Ça a façonné l'être politique, l'être social que je suis devenu par la suite.
« 5 octobre 1988. Je n'avais pas encore 17 ans et les chars étaient déjà là, dans la rue, pivotant dans une rotation chaotique, leurs canons prêts à cracher du mépris. Il y a des dates qui ressemblent à des tremblements de terre devant lesquels ça vous vaincu la tectonique. C'est effrayant. Un char en dehors d'une caserne, c'est comme un fauve affamé en dehors d'une cage. Il ne fait pas bon se trouver sur son chemin. Un char. Ça écrase tout, l'espoir, la terre, les hommes, les gamins. Quand on a vu des chars dans la rue, on n'est plus tout à fait un enfant. On ressemble déjà à ses parents. On se réapproprie leurs cauchemars, leurs frayeurs et leurs suppliques d'autrefois, celles que l'on croyait à tout jamais englouties et scellées dans les caveaux de l'histoire. Des suppliques sottes, pour que cesse le bruit et la haine des chenilles métalliques qui écrasent l'asphalte et le cri des insurgés. Nos parents ont connu les chars de la guerre de libération, de la bataille d'Alger, et parfois d'autres chars encore, conduits par d'ignobles nabots, des putschis locaux sans épaisseur, mais dont le souvenir me paraît aussi lointain que la guerre d'Algérie. 1988, cette année-là, 26 ans après l'indépendance, nos parents, ont peut-être cru voir leur échec dans la présence de ces chars qui menaçaient de mort leurs propres enfants. Qui sait ? C'est pour cela qu'ils sont restés silencieux, nos parents. Ils n'ont pas su nous épargner cette tragédie mécanique. Quant à cette autre génération, née après l'indépendance, aujourd'hui trentenaire ou quadragénaire, elle non plus n'a pas su épargner la présence insupportable de ses chars à ses propres enfants. Même frayeur et même échec intergénérationnel que chacun lègue à l'autre, nous léguons nos échecs à nos enfants comme d'autres lèguent des héritages devant un notaire. Les chars sont un élément constitutif de notre histoire. Nous avons fini par intégrer cette donnée historique à nos dépens depuis longtemps déjà. Un peu comme si notre destin était irrémédiablement lié à celui de ces machines de guerre. Nous étions nombreux à voir ces canons monstrueux avec leurs chenilles bruyantes et menaçantes pour la première fois. Nous étions nombreux aussi à couver dans la tête cet étrange sentiment que leur présence nous était entièrement dédiée. Et ce qui n'était encore qu'un vague sentiment d'appréhension est vite devenu une certitude dès les premières balles tirées, sans sommation, en direction des enfants sortis manifester dans la rue. Les militaires algériens avaient tiré sur des enfants. Le comble de l'horreur est certainement de savoir qu'il y avait là une volonté de tuer, de faire mal, de rabaisser l'autre. Et l'autre, c'était nous.
C'est donc les premières lignes du livre de Sid Ahmed. Donc vous l'aurez compris, ce 5 octobre 88 est un moment fondateur pour toute une génération, pour l'Algérie aussi. Est-ce que tu peux nous parler, puisque tu as déjà évoqué ce 5 octobre, les 5 jours d'émeute qu'il y a eu, la répression féroce de l'armée et du pouvoir, mais s'ouvre après ces émeutes, après ce 5 octobre, une période où tout semble possible.
Juste après les événements d'octobre, donc ça a duré, les émeutes ont duré 5 jours, la torture un peu plus, hélas. Mais tout de suite après, on a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose, une cassure, il y avait quelque chose dans la société qui venait de se passer et que les choses allaient changer. Ça ne pouvait plus être de la même manière. On ne pouvait plus vivre de la même manière après octobre 88. Donc tout de suite, des associations se sont mises à bouger, à activer. Il faut juste remettre dans le contexte de l'histoire et dire les choses telles qu'elles sont. Les premiers à avoir bougé en fait dans la société, c'était les médecins et les journalistes. Les médecins, pour une raison très simple, parce que c'était les premiers qui recevaient les blessés. Donc c'est les premiers à avoir visualisé l'horreur. Les seconds, c'était les journalistes, parce que tout de suite, il y a une censure. Enfin, la censure existait depuis 30 ans, depuis l'indépendance, mais dès qu'il y a eu les événements, c'est-à-dire que les journalistes étaient interdits d'accès, même aux salles de Télex, là on recevait les dépêches et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a eu 70 journalistes qui se sont rencontrés dans une maison, chez quelqu'un, pour faire un communiqué, qui était à l'époque très très courageux et même, j'allais dire, révolutionnaire. Donc il y a eu un premier communiqué pour dénoncer la répression et pour dénoncer la censure. Je pense qu'ici, les gens ne peuvent pas se rendre compte parce que vous vivez dans une société qui, c'est normal, les journaux existent et tout, mais à l'époque, c'était quelque chose de phénoménal que ça puisse exister. Et puis, ces deux mouvements, ça a enclenché une dynamique dans la société qui a duré quelques mois, et je dirais même 2 ans. Pendant 2 ans, on a vécu une sorte dans une frénésie comme ça, on pensait que tout allait changer. Et effectivement, on a vécu dans une liberté absolue pendant 2 ans. C'était une sorte de récréation. Tous les jours, il y avait un journal qui se créait. D'ailleurs, c'était impossible de les contenir tous dans un buraliste. Des partis politiques, c'était en veux-tu, en voilà. Il y en avait plus de 70 partis politiques. Ça allait dans tous les sens. Tout le monde parlait, tout le monde gueulait. Pendant 2 ans, il y a cru. On pensait réellement que la société allait bouger. Et il y avait une volonté aussi de quelques politiques à l'époque d'aller vers ça. D'aller vers une réelle ouverture démocratique de la société. Mais pendant ces 2 années-là, les principaux dirigeants du pouvoir ont tout de suite compris qu'ils allaient être bouffés par cette dynamique. Donc, ils sont tout de suite mis d'abord à manipuler l'islamisme. Parce que ce qui inquiétait le pouvoir, ce n'était pas l'islamisme. L'islamisme était possible de combiner avec, de faire des compromis. Mais ce qui les inquiétait le plus, c'était la démocratie. Donc, pendant ces deux années-là, il y a eu un tas de manipulations, un tas de trucs, jusqu'en 90-91, quand il commençait à avoir les premiers dérapages dans la société. C'est-à-dire que les islamistes avaient pris d'assaut d'abord la ville, ils avaient pris Alger, il y avait des manifestations qui débordaient, qui se faisaient dans la violence et tout. Et c'était l'occasion naturellement rêvée pour le pouvoir de mettre un holà, de dire bon, basta. Donc, pendant deux ans, réellement, on a cru que ça allait changer, qu'on allait vivre dans un autre pays, tel qu'on l'imaginait, tel qu'on l'avait rêvé, tel qu'on le rêve toujours d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis le retour de bâton est venu tout de suite après, la récréation était finie, tout le monde rentre chez lui, les militaires sont dans la rue, les chars sont dans la rue, et plus personne ne parle. Et ça a duré 15 ans, il y a eu une guerre horrible qui a duré presque 15 ans, où il y a eu des horreurs, enfin... Vous avez certainement dû voir à travers les médias, à travers... Donc voilà, ça a duré vraiment deux ans. Pendant deux ans, il y a cru, après, bon.
I'm
Une élection douteuse. Une assemblée élue sans électeurs dans une urne vide. Un Sénat taillé sur mesure dans le vif du sujet et des maires issus de la fraude électorale derrière un isoloir complaisant. Pourquoi ce pouvoir se résoudrait-il enfin à résoudre des questions qu'il n'est pas habitué à vivre ? On ne règle pas ce qu'on ne connaît pas. Le pouvoir ne vit pas ici. Il vit à la frontière sud de la mer Méditerranée, quelque part entre Club des Pins et les scanners complices du port d'Alger. Le pouvoir se manifeste en Algérie de façon succincte. La journée, il emprunte furtivement nos rues sécurisées qu'il traverse en voiture blindée, à toute allure, pour arriver à temps au banquet des ambassadeurs et au cocktail des hommes d'affaires. Le soir, le pouvoir occupe le journal télévisé pour faire croire qu'il est là et qu'il s'emploie pour le bonheur de son prochain, qu'il n'a jamais croisé sur l'autoroute reliant son bureau vacant à ses résidences d'été. Le pouvoir ne peut pas comprendre les préoccupations de la société. Il ne vit pas ses angoisses, il ne partage pas ses peines et ne rit pas de ses blagues qui, généralement, lui sont généreusement dédiées. Le pouvoir se protège sans protéger le peuple. Le pouvoir s'est barricadé dans des villas somptueuses avec des caméras de surveillance à infrarouge de chaque côté de ces citadelles. Le pouvoir ne connaît pas de problème de transport. Il a ses chauffeurs pour l'emmener vers le gain facile. Le pouvoir ignore les fins de mois difficiles, il mange gratuitement avec l'argent du contribuable des crevettes royales au petit déjeuner en buvant du pétrole dans les canettes de bière importées par ses collègues à la retraite. Les enfants du pouvoir sont scolarisés dans les meilleures écoles d'Europe et dans les plus chics établissements privés de la capitale. Pourquoi ? Alors se presser à réformer l'éducation ou à changer la justice quand on a sous la main les procureurs, les juges, les banquiers et des femmes de ménage. Le pouvoir ne sait rien des problèmes d'eau. Il prend des douches chaque matin, il a des piscines remplies d'eau potable pour se désaltérer, des jacuzzis remplis d'eau minérale pour se détendre et de l'eau stérilisée en permanence dans ses robinets. Le pouvoir n'a pas de problème de médicaments non plus, il se fait soigner à l'étranger, en rappelant sur les ondes de la radio algérienne que nos hôpitaux sont très sûrs, d'où sa longévité agaçante d'ailleurs. Le pouvoir n'a pas de problème de logement, il habite des palais. Il n'a pas de problème de travail parce qu'il n'a pas de problème d'argent, donc le pouvoir n'a jamais travaillé. D'ailleurs, quand il gagne de l'argent, il ne voit pas encore l'utilité de chercher un travail décent. Le pouvoir n'a pas de frustration sexuelle, comme l'ensemble de la population civile. Il a des garçonnières, des harems et plusieurs suites dans ses idées nocives à la santé du peuple et plusieurs suites à l'œil dans les hôtels de luxe. À suivre.
Et alors, dans ce livre, tu nous parles de ces deux Algéries, puisque le sous-titre étant en chronique des deux Algéries, une Algérie que tu nommes Algérie réelle, et l'Algérie qui est décrite dans le passage qu'on vient d'entendre, l'Algérie du Club des Pins. Ouais. Tu peux nous préciser ce que c'est que le Club des Pins et comment vit le pouvoir ?
Ouais. Le sous-titre, c'est chronique des deux Algéries, oui, effectivement. Club des Pins, en fait, c'est à l'origine, Je l'explique dans le livre. Bah, à l'origine, c'était une station balnéaire qui existait déjà à l'époque de la colonisation. Donc c'était un endroit conçu pour les riches colons qui vivaient. Donc le week-end, le dimanche, ils allaient là-bas pour être tranquilles. Et juste après l'indépendance, cet endroit qui est à quelques kilomètres d'Alger, donc c'est un très bel endroit, a tout de suite été occupé par les principaux chefs de l'Algérie indépendante. Au début, ils vivaient juste là-bas, mais au fur et à mesure que les années passaient, cet endroit se renfermait de plus en plus, c'est-à-dire c'était une station balnéaire à laquelle on avait accès, c'est-à-dire les villas étaient occupées par les dirigeants, mais on pouvait aller à la plage sans faire trop de bruit, nager un peu, et puis au fur et à mesure que le temps avance et tout, ils sont barricadés. Ce n'est pas une image, hein, c'est réel, c'est-à-dire à monter des murs, à mettre des barbelés. Et plus la situation dans le pays basculait un peu dans la violence, plus les murs montaient un peu plus haut, plus les barbelés étaient plus sophistiqués, et ils les importaient des États-Unis, plus la surveillance devenait de plus en plus sophistiqués aussi, donc avec des armes de guerre, il y avait des militaires partout. Et au début, c'était juste les chefs, c'est-à-dire les militaires, quelques ministres, quelques trucs. Puis, ils ont construit d'autres villas à l'intérieur dans lesquelles ils ont convié, ils ont invité la cour, où il y avait tous les cadres soumis, tous leurs valets en fait. Ceux qui font fonctionner une dictature, parce qu'une dictature ne fonctionne pas avec un dictateur. Il faut qu'il y ait toute la machine qu'il y a autour qui fonctionne à la périphérie. Et donc tous ces gens-là étaient à l'intérieur, protégés, armés, nourris, logés, blanchis. Et donc ils ont créé une réelle frontière entre la société, c'est-à-dire nous, ce que j'appelle l'Algérie réelle, et le pouvoir. Donc c'est l'un des rares pays, je crois, je ne connais pas d'autres pays comme ça, où il y a une réelle séparation, une sorte de mur, une sorte d'apartheid comme ça, entre les dirigeants et le pouvoir. Il n'y a aucun dirigeant qui vit dans la société, c'est-à-dire on ne peut pas rencontrer un ministre dans la rue, ça n'existe pas. Un ministre, on le connaît à la télé et à Club des Pins, c'est-à-dire si on est un privilégié et on a accès à cet endroit. En fait, Club des Pins est le symbole de cette rupture qu'il y a entre la société et ses dirigeants. C'est devenu un pays, en fait. C'est comme un pays avec une frontière. Il y a l'Algérie, il y a Club des Pins. C'est même pas un pays que tu peux demander un visa, tu peux rentrer, tu rentres pas. Il n'y a pas de relation diplomatique entre la société et ses dirigeants.
On parlait tout à l'heure des deux années un peu d'euphorie, mais le pouvoir reprend vite la main en étant, comme tu viens de l'expliquer, cadenassé en captivité, donc... Dans le Club des Pins. En même temps, ce pouvoir, il a la faculté de manipuler, de rebondir.
Depuis... Mais le pouvoir ne fait que ça. C'est-à-dire, c'est des gens, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est des gens qui ne font que comploter. C'est-à-dire, leur temps, ils le passent, ça fait 50 ans qu'ils complotent. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas une autre forme de vie que celle du complot. C'est-à-dire, quand ils se mettent à discuter, c'est pour comploter contre une troisième personne. C'est pas à discuter parce qu'il faut faire quelque chose ou il faut penser à quelque chose ou la veille ils ont vu un beau film, ça n'existe pas. C'est des gens qui passent leur temps à comploter. Et le complot consiste à comment se maintenir au pouvoir. Dès qu'il y a quelqu'un qui dérange, il faut l'éjecter. Et quand on ne peut pas l'éjecter, on peut passer à des méthodes plus radicales, ça peut aller jusqu'au meurtre. Bon, on l'a vu pendant des années, ils ont tué des opposants, ils ont torturé. Donc il y a un certain nombre de méthodes comme ça qui montent à chaque fois. On commence avec, on éjecte, ça ne marche pas, après il y a la torture, ça ne marche pas la torture, il y a l'assassinat, ça ne marche pas l'assassinat, on trouvera d'autres méthodes.
Algérie, pillée, foutue. Une main mystérieuse a inscrit ces mots à la peinture rouge sur un mur d'Alger sans signature, avant de disparaître dans la nuit. Épitaphe impitoyable, atroce parole de vérité, aux antipodes de la coquetterie abstraite de la bien-pensance algéroise. En ce petit matin de 2002, cette phrase grumeleuse, rouge comme du sang, sentencieuse comme un verdict sans appel,
que les riverains découvraient furtivement en sortant de chez eux, dégoulinaient encore comme les traces lisibles d'un cri nocturne que personne n'avait entendu. Le cri coulait jusqu'en bas du mur dans un tracé insensé qui nous projetait immédiatement dans le rappel d'une horreur elle-même insensée. L'horreur d'une guerre sans nom, sans image, silencieuse, malgré les hurlements des victimes que l'on égorge à proximité des casernes, malgré les cris de ceux qu'on y torture, malgré le vacarme des balles et la furie des bombes. Des victimes le plus souvent sans visage, anonymes, qui s'entassent les unes sur les autres, dans les gros caractères des quotidiens entre chiens écrasés et prévisions météorologiques annonçant des lendemains orageux. Algérie pillée, fautue. Ces mots chahutés par la coulée de peinture sur le mur créaient l'illusion du saignement comme dans le générique d'un film d'épouvante. Les mots étaient blessés, presque agonisants. Ils coagulaient tranquillement dans leur faute d'orthographe sous le soleil d'un matin chaud d'Alger, comme autant de preuves de notre propre faillite. Il y avait de la détresse dans les fautes d'orthographe de cet homme. Il y avait du tragique dans la déformation de ses mots et du burlesque dans leur phonétique. Pourquoi un homme prendrait-il du temps, de la peinture et un pinceau pour écrire ça en pleine nuit avant de revenir à son intranquillité comme dans un poème de Pessoa ? Le trait n'était pas affiné, il n'avait pas le souci de l'esthétisme formaté des tagueurs experts. Cette main n'était pas là pour dire la gloire de son club de foot, ni la défaite de son amour, ni même exagérer démesurément des protubérances mâles devant des prénoms de femmes inventés ou empruntés à d'autres histoires que la sienne, le temps d'un rêve. Cette main voulait parler, dire une opinion politique, et elle n'a trouvé que les murs pour prendre en charge sa parole. Une parole confisqué par la terreur d'un État policier qui, au lieu d'écouter sa société, a préféré la mettre sur écoute.
C'est un texte assez terrible sur la situation en Algérie. Après, finalement, ces deux années d'effervescence, le pouvoir, donc Club des Pins, reprend la main. Les islamistes se réveille dans les années 90 jusqu'aux élections de 92 qui sont annulées. Tu peux nous raconter ce moment-là, comment ça se passe, comment tu le vis, et puis les années qui suivent.
D'abord, très vite, bien avant les résultats, on a compris que les islamistes étaient une déferlante qui allait tout emporter sur son passage. C'est-à-dire, on savait que les islamistes allaient gagner le résultat. Surtout, à l'époque, il y a eu un découpage électoral assez biscornu, donc ils voulaient traficoter. En fait, les gens qui étaient au pouvoir voulaient traficoter pour que, en fonction d'un c'est très complexe à expliquer, en fonction d'un découpage électoral comme ça, pour que le FLN, qui était le parti au pouvoir, puisse gagner un maximum de voix. Ça n'a pas marché. Donc les islamistes ont quasiment tout raflé dès le premier tour. Naturellement, pour nous, pour les gens qui ne sont pas islamistes, et ils sont nombreux, c'était une véritable tragédie. C'est-à-dire qu'on allait basculer dans une espèce de... C'était l'inconnu, on allait vers quelque chose, vers le chaos, certainement. La vie allait changer, on passait d'une dictature militaire à une dictature religieuse, ce qui n'est pas meilleur. Et puis, tout de suite après, entre les deux tours, les militaires, toujours, se sont concertés et ont décidé d'annuler le deuxième tour et de passer à une... Ils ont fait un coup d'État, en fait. Ils ont bloqué le processus électoral. Ils ont viré le président qui était à l'époque, ils l'ont envoyé chez lui. Et ils ont créé une instance comme ça, dirigeante collégiale pour prendre le pouvoir, en attendant mieux. C'est-à-dire que... À la gabegie de l'islamisme, ils ont répondu par la violence. Et cette violence n'a fait qu'accélérer les choses et on s'est retrouvé dans une espèce de cycle de violence comme ça, incontrôlable. Les islamistes les plus radicaux ont naturellement pris le maquis pour crier à l'injustice, et le pouvoir s'est lancé dans une opération de répression atroce. Ils sont mis à arrêter des gens à tout va, il y avait des centaines et des centaines d'arrestations par jour. Ils ont créé des camps de... il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, c'était des camps de concentration, c'était dans le sud algérien, donc en plein désert. Ils mettaient des gens qui avaient peut-être de la sympathie pour l'islamisme ou un truc comme ça, mais qui n'étaient pas des éléments dangereux ni des éléments radicaux. Donc c'était vraiment des rafles arbitraires, c'était du pire arbitraire. Ils ont mis des milliers de gens dans ces camps, et naturellement la violence appelle la violence. C'était l'escalade, et c'était la surenchère, et c'était ça a donné ce qu'on a vécu pendant les 15 dernières années, une guerre abjecte et atroce.
Reçu un coup en plein en plein
on va dire, il faut pas dire tout de suite en plein moral, il faut un peu de suspense. Après, insister.
Reçu un coup. En plein.
Ça, on peut le faire autant qu'on veut.
En plein.
J'ai reçu un coup en plein moral. J'ai reçu un coup en plein moral. J'ai reçu un... Vous pouvez chanter, c'est facile. En plein moral. J'ai reçu. Et qui me dit en plein moral.
Ouais.
Après, on développe. Pourquoi on a reçu un coup? Ah, d'accord, c'est tout.
C'est ma fiancée Halima, la momo de mes yeux, qui m'a écrit un mot pour dire que c'est fini nous deux. Elle a rompu nos relations bilatérales en plein moral. J'ai reçu un coup en plein moral. J'ai reçu un coup. Elle m'annonce qu'elle épouse son cousin Othman. C'est fou quand je pense qu'on devait signer l'année prochaine. Tout ça parce que ce cousin c'est un caporal en plein moral. Et j'ai reçu un coup en plein moral. Ça y est, c'est fini, c'est le dégotage. J'en ai marre de ma vie, j'ai plus qu'à faire chanter la chorale en plein moral. J'ai laissé un coup en plein moral. J'ai laissé un coup en plein moral.
Personne ne veut chanter. En plein moral. Tu veux un coup? En plein moral. J'ai reçu un coup. En plein moral, c'est facile, non? En plein moral, j'ai reçu un coup. Allez-y, je vais pas regarder.
En plein moral, j'ai reçu un coup. En plein moral, j'ai reçu un coup. En plein moral, en plein moral.
n'ayez pas peur. En plein moral, en plein moral, en plein moral. Je retiens comme. Je reçois un coup en plein moral, en plein moral, en plein moral. Je reçois un coup en plein moral, en plein moral, en plein moral. Je reçois un coup en plein moral, en plein moral, en plein moral. Je reçois un coup en plein moral, en plein moral, en plein moral.
C'est tellement évident que personne n'en fait cas. Parce que souvent, on cherche de grandes solutions politiques alors qu'il existe de petites actions pratiques. On tue aussi facilement parce que les quartiers sont plongés dans le noir. Le constat est sans appel. Il est énoncé par un rescapé qui a réussi à reporter sa mort à une date ultérieure en bénéficiant d'un rééchelonnement pour les frais de ses obsèques. L'homme en question n'a aucune velléité raciste, même si, péremptoire, il accuse le noir de complicité avec les groupes armés. Vivant du côté de Médéa, cet homme ne peut être décemment soupçonné d'une affection particulièrement républicaine pour George W. Bush, dont la sympathie pour le noir est à peu près aussi établie que celle que manifeste un chasseur zoophile devant une outarde convalescente ou une gazelle insulino-dépendante cherchant un point d'eau dans sa traversée du désert. Dans la lointaine Amérique, Bush préfère broyer du noir dans des chambres à gaz ou sur des chaises électriques. Ici, contrairement à l'Amérique, le noir mis en cause est celui de l'obscurité des nuits, souffrant d'une absence d'électricité nécessaire pour constituer tout éclairage public. Une obscurité dans laquelle sont plongés des quartiers entiers du pays, une fois sortis du périmètre sécuritaire, outrageusement éclairés, des rues résidentielles, et de clubs des pins. À part les bombes, qui en règle générale explosent le jour, tous les massacres sont commis de nuit, au moment où tous les chats sont gris et toutes les casernes sourdent. Depuis le début de la guerre, les mêmes constats truffent les mêmes témoignages concluant aux mêmes enseignements. L'obscurité est un terrain favorable pour tous les groupes armés et un allié sûr pour chaque tuerie. D'où la notion d'obscurantisme. Au XIXe siècle, Thomas Edison, un inventeur, fut à ses dépens le premier à lutter contre l'obscurantisme en réussissant convenablement à convertir l'énergie électrique en lumière contenue dans une lampe. L'invention de Thomas Edison n'a pas réussi à mettre fin à l'obscurantisme. Mais elle a permis à d'autres de l'identifier et de le voir venir de loin, même de nuit. Sans s'intéresser à l'œuvre d'Edison, des rescapés exigent depuis longtemps l'éclairage public. Mais ils attendent toujours. Aucun responsable de commune n'a jamais été inquiété. On passe dans le noir. On tue dans le noir. Le lendemain, on enterre dans le silence. L'État est coupable de non-assistance à peuple en danger, réclamant juste un peu de lumière, pour vivre en ayant moins peur de mourir, en étant sûr que ses tueurs ne ressemblent pas à Brad Pitt. Parce que ce serait dommage. Le peuple aime bien Brad Pitt. Une lampe n'a jamais tué personne. Elle n'a certainement jamais sauvé aucune vie. Mais elle peut empêcher plusieurs morts. Et si l'État ne peut toujours pas mettre un soldat derrière chaque citoyen, avec 15 milliards de dollars de réserve de change, il devrait se débrouiller pour mettre une lampe devant chaque vivant.
J'ai vu, entendu qu'il y avait des gens qui riaient. Il y a, quand on lit le livre, il y a des moments comme ça où finalement on a le sourire aux lèvres, malgré les choses terribles que tu nous racontes. Je voulais savoir, quand tu étais chroniqueur au matin, en dehors des généraux, donc on connaît la réponse, mais les gens, les lecteurs, comment ils recevaient les chroniques? Est-ce que tu avais un courrier particulier avec eux?
Oui, je recevais beaucoup de courriers, ouais. Les gens étaient très, très réceptifs. En fait, c'est dangereux d'écrire des choses pareilles parce que c'était écrit au jour le jour. C'est-à-dire qu'il y avait des saloperies qui se commettaient la nuit. Et puis, moi, le lendemain, j'arrive, j'apprends qu'il y a des trucs. J'apprends qu'il y a eu un massacre à tel endroit ou à tel autre endroit. Et bon, la première réaction, c'est naturellement, tu es achevé. Tu dis, c'est pas possible, il y a eu 400 morts hier seulement. Donc, la première réaction, c'est une réaction de tu es complètement perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi réagir, tu n'as plus de force, tu n'as plus de mots pour dire les choses. Souvent, il nous arrivait de pleurer, de voir. En plus, quand je travaillais dans un journal, donc j'avais accès à des photos qui n'étaient pas souvent publiables, mais que, bon, par la force des choses, on voyait comme ça, c'était des horreurs. Et puis, tout de suite après, il fallait que je me mette dans la peau de... J'allais dire du clown, ce n'est pas tout à fait ça. Et il fallait rire. Donc il fallait. En fait, c'était danser sur des cadavres. C'était tous les jours une danse comme ça. Mais le danger consistait. Ça, tu es toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire, il faut danser sur ces cadavres-là en ayant le souci de ne pas être vulgaire. Parce qu'il y a des gens qui viennent de mourir, il y a des familles qui vont lire ça. Donc il y a toujours cette peur comment les choses vont être perçues le lendemain. Et sur ce plan-là, je n'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire, les gens comprenaient que c'était que je me moquais pas de ce qui arrivait, mais c'était quelque chose. C'était une profonde douleur qu'on exprimait, que moi j'exprimais de cette manière-là, parce que je ne trouvais pas, je pouvais pas faire des articles tous les jours pour dénoncer. C'est-à-dire dans une forme de dénonciation comme ça routinière qui n'apporte absolument rien. Il y a un meurtre, oui, je condamne, bien sûr que je condamne ce meurtre. Tu peux le faire une fois, tu peux le faire deux fois, mais je n'allais pas suivre pendant 15 années de guerre, tous les jours condamné. Donc, ces condamnations se sont transformées en une sorte de création, comme ça. Tous les jours, il fallait créer quelque chose et jouer avec ça. Et c'est très, très, très douloureux, mais bon, il fallait trouver la bonne note, tous les jours. Je ne sais pas si je l'ai trouvée régulièrement, mais j'essayais de la trouver.
Il y a tout de même à la suite de ça, donc le journal, toi le matin tu l'as quitté en 2002, le journal s'est arrêté en 2004. Mmh. Il y a depuis un certain temps en Algérie le ministère de la Défense qui s'en prend aux journalistes. Il y a notamment l'ancien directeur du matin qui est aujourd'hui en prison. Mmh. Tu as été toi aussi condamné par contumace, c'est précisé. À 6 mois ferme. Quel est le pouvoir aujourd'hui? Bouteflika s'en prend directement donc aux journalistes. Tu peux nous parler de cette évolution récente?
En fait, je ne sais pas si c'est une évolution, mais la presse, pendant les premières années, je parlais tout à l'heure des deux premières années, juste après 88, où le rêve était permis, où il y avait une presse pluraliste comme ça, où on croyait des lendemains meilleurs, où la presse essayait de faire un travail plus ou moins correct. Et puis, dès qu'il y a eu l'interruption du processus électoral, la presse s'est transformée. C'est-à-dire, ils ont accepté de cautionner la démarche du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire dès 92, la presse avait déjà signé son arrêt de mort. C'est-à-dire, au lieu de faire du journalisme, les journalistes ont décidé de se transformer en soldats. Et ça, c'était le début de la mort de la presse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'information, ils ont fait de la propagande. Et pendant des années. Et ce qui vient d'arriver... Aujourd'hui, la presse, elle est tête baissée, elle ne sait plus où elle va. Il y a un retour de bâton comme ça. Bouteflika, le nouveau, ça fait 8 ans qu'il est là. Il est en train de fermer le jeu. Et la presse, s'est inscrite non pas dans l'information, mais dans les luttes de clans. Et juste avant les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles, elle était inscrite dans un combat anti-bouteflikien. Elle a accepté d'être le porte-parole des militaires parce qu'il y a eu une grosse manipulation. On a fait croire à la presse que Bouteflika n'allait pas gagner le deuxième mandat, qu'il était fini, ça y est, il a dilapidé le pays, dénationalisé ce qui était nationalisé, bradé les richesses. Donc, tête baissée, ils sont fourvoyés dans cette voie-là. Résultat des courses, Bouteflika arrive au pouvoir une deuxième fois, et là, ils sont coincés. Ils sont coincés, ils n'arrivent plus à travailler, ils sont tout timides. Mais tout ça, c'est le résultat de leur compromission. C'est-à-dire, s'ils avaient décidé, dès le départ, d'être indépendants, de faire de l'information, d'avoir des opinions libres, ils ne seraient pas dans cette situation-là. Mais ceci s'explique aussi par autre chose. Nous sommes sûrement le seul pays au monde où, quand il y a eu une révolution, c'est-à-dire en octobre 88, il y a eu des exemples comme ça en Europe, à l'Allemagne de l'Est, les ex-pays de l'Est, c'est-à-dire régimes communistes et tout, qui ont basculé, quand il y a eu des révolutions, ils ont basculé dans une autre forme de gestion de la société. C'est-à-dire qu'ils sont passés du communisme ou du parti unique à un pluralisme politique. C'est ce que nous avons vécu. Sauf que la spécificité de l'expérience algérienne, c'est que nous avons basculé du parti unique au multipartisme avec les mêmes acteurs. C'est-à-dire ceux qui ont fait la dictature pendant 30 ans, c'est ceux-là même qui aujourd'hui veulent faire la démocratie. Et ça ne peut pas marcher. Ceux qui étaient à la tête des journaux du parti unique, ceux qui ont chanté le parti unique, ce sont ceux-là même qui aujourd'hui veulent faire la presse pluraliste. Et ça ne peut pas marcher aussi. C'est-à-dire, on peut créer l'illusion de la démocratie pendant un certain temps, mais ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Celui qui a fait le parti unique ne peut pas faire la démocratie. Et celui qui a écrit, pas seulement écrit, mais celui qui a été... Qui a brillé pendant les années de parti unique avec sa plume pour chanter la dictature, ne peut pas aussi faire la presse pluraliste. On ne peut pas tromper la société très longtemps. Ça a duré 15 ans, maintenant ils sont en bout de course. Ils n'ont plus rien à dire. La société sait pertinemment qui sont ces gens-là, donc ils ne peuvent pas avancer. L'Algérie a besoin aujourd'hui d'un nouveau régime, de nouveaux dirigeants et d'une nouvelle presse. Des gens qui ne sont pas compromis ni dans le parti unique, ni dans la guerre, ni dans quoi que ce soit.
La mémoire est-elle encore un rempart contre l'impunité? Se rappeler le pire peut-il nous éviter le moins bon? Ne pas oublier les crimes des uns peut-il nous éviter les monstruosités des autres? Petit exercice de mémoire pour entamer la semaine avec un moral dans le plâtre. Selon un sondage clandestin, effectué dans des conditions clandestines, l'Algérien se rappelle tout, mais a tendance à tout oublier dès le lendemain. Les plus téméraires n'entament l'oubli qu'après le troisième jour des obsèques de notre mémoire. Indépendamment de cette contradiction de style que le lecteur aura relevée sans grande difficulté, les historiens ont déjà noté que nous ne sommes pas à une contradiction près. En effet, est-il possible de se rappeler de tout si l'on oublie aussi vite ce que l'on est censé retenir, s'interrogent les amnésiques. Selon ce sondage clandestin, 99% de la population se rappelle encore que l'armée détient la réalité du pouvoir en Algérie. Pour des raisons de sécurité, 99% de la population n'est pas prêt d'oublier cette réalité. Le 1% de la population restant préfère garder l'anonymat, mais n'en pense pas moins et tient à rassurer les services de sécurité. Elle est tout de même disposée à réviser ses opinions secrètes si jamais elle est arrêtée par les agents de la sécurité militaire le jour du scrutin. Selon le même sondage encore, 70% de la population ne se rappelle plus du goût de la viande, mais n'oublie pas de manger dès que les conditions nécessaires pour le faire sont réunies. 30% de la population restante se déclare végétarienne pour oublier qu'elle est pauvre. Mais les analystes estiment qu'en ce qui concerne cette population, il ne s'agit pas d'oubli, mais plutôt de pudeur. 100% de la population civile se rappelle encore la dernière fraude électorale, sans oublier que, demain, elle doit aller chercher du travail si elle veut payer les frais de son enterrement dès la prochaine incursion du GIA ou son ultime stationnement devant un faux barrage des salafistes. 45% de la population se rappelle avoir essayé au moins une fois le suicide collectif, les mariages en groupe et les rassemblements démocratiques réprimés par la police. 98% de la population se rappelle que voter ne sert à rien, mais apprécie quand même les pages sport du matin et les films X sur le câble. Mais 99% de la population, dont la presse, ne se rappelle plus Walid Souala, un jeune collégien de 14 ans abattu par un militaire en faction la semaine dernière. L'ensemble des sondés promet de se rattraper dès la prochaine victime. Alors, à bientôt.
Et un dernier résultat qui vient de nous parvenir. Donc apparemment, pour le référendum sur la charte pour la paix et la réconciliation en Algérie, il y aurait eu 80% de votants et 97% des personnes qui ont répondu oui. C'est les chiffres officiels. Ce référendum... Donc pour la charte pour la paix et la réconciliation, tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on laisse la parole à la salle?
Oui, brièvement, je pense... D'abord, il n'y a pas eu 97% de oui. Il n'y a pas eu 83% de votants. Donc ce qui fait qu'il y a eu 15 millions d'Algériens qui se sont déplacés ce jour-là pour voter. Et je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, je disais à quelqu'un, quand il y a 15 millions d'Algériens ou 15 millions de personnes qui se déplacent le même jour quelque part, on les voit. Ce jour-là, où j'étais à Alger, il n'y avait rien. Donc très peu de personnes ont voté ce jour-là. Le président actuel avait besoin d'un plébiscite, il a besoin d'avoir les mains libres pour d'abord avoir un troisième mandat, pour changer la constitution, parce que la constitution algérienne ne prévoit que deux mandats présidentiels, donc lui, il va aller vers un troisième mandat, et il avait besoin de ce chiffre. 97% de la population pour lui léguer tous les pouvoirs et faire ce qu'il a envie de faire. Deuxième chose, charte pour la paix et la réconciliation. Cette charte n'a absolument rien à voir ni avec la paix ni avec la réconciliation. Naturellement, nous sommes tous d'accord avec la réconciliation et la paix. D'abord, on ne peut pas demander, poser la question de cette manière qui est absurde. On ne peut pas demander aux gens, êtes-vous pour ou contre la paix ? Personne ne peut dire « je suis contre la paix ». Le référendum, pour le résumer, a fait poser la question de cette manière. Êtes-vous pour ou contre la paix ? Donc, voilà. Concernant la réconciliation, il n'y a pas de réconciliation. On est d'accord avec la réconciliation, mais la réconciliation ne peut pas se faire sans justice. Il faut qu'il y ait justice dans ce pays. Il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé pendant les 15 dernières années. Il faut qu'on sache qui a fait quoi, pourquoi et comment. C'est-à-dire que les islamistes doivent d'abord dire ce qu'ils ont fait, pourquoi, qui avait commandité les meurtres, et demander pardon. Il faut qu'eux-mêmes demandent pardon. Il faut que les services de sécurité, c'est-à-dire l'État algérien, et à travers tous ces services de sécurité militaires et autres, disent ce qu'ils ont fait réellement, c'est-à-dire reconnaissent leurs crimes, leurs exactions, leurs assassinats extrajudiciaires, leurs tortures, etc. Il faut que tous ceux qui ont fait quelque chose le disent. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé dans ce pays pour qu'il puisse y avoir une réconciliation. On ne peut pas se réconcilier comme ça. Il y a eu 200 000 morts, il y a eu 20 000 disparus, il y a eu des millions, je ne sais plus combien ils sont, de familles victimes de cette tragédie. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain, oubliez tout, on se tape sur l'épaule, on prend un café et on passe à autre chose. Ce n'est pas possible. Donc cette charte, c'est du burlesque, c'est n'importe quoi. C'est un truc politique qui a été fait pour que le président actuel, donc le pouvoir actuel, puisse avoir les mains libres, puisse avoir plus de pouvoir, de concentrer tous les pouvoirs autour de cette personne qui est aujourd'hui le président de la République. Donc demain, il pourra légiférer par ordonnance, d'ailleurs il le fait depuis très longtemps. C'est vraiment... la mise en place d'un pouvoir absolu et absolutiste qui est en train de se mettre en place. Et les quelques acquis démocratiques qu'on a connus sont réellement en danger. Maintenant, la vie dans la société algérienne est en train de changer. Les gens soufflent un peu parce qu'il y a moins de terrorisme, donc moins de pression sur les gens. Il y a plus d'argent. L'Algérie n'a jamais été aussi riche ces sept dernières années. Depuis 1962, il n'y a jamais eu autant d'argent que cette fois-ci. Le pétrole est quasiment à 100 dollars. Donc vous imaginez bien qu'il y a énormément d'argent dans ce pays. Puis après, ils vont se rendre compte que la société est en train de se replier sur elle-même, que la dictature prend place. Et quand la société aura, une fois encore, le besoin de s'exprimer, elle ne trouvera aucun canal pour le faire et on risque de basculer aussi dans une autre forme de violence. Donc la solution aujourd'hui, c'est la démocratie. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas réfléchir à mille et une choses. La société algérienne souffre d'un déficit démocratique. C'est tout.
C'était donc Sid Ahmed Semian et à la musique Cheikh Sidi Bémol. Merci à tous les deux. Merci aussi à l'association Le Chêne et l'Olivier, à la librairie Le Livre en Fête et aux lecteurs Henri Robert et Claude Marcoux. Je vous rappelle que le livre de Sid Ahmed Semian s'intitule Au refuge des balles perdues et qu'il a été publié à La Découverte.
ذي الحمونة تماسى والصغار تتغني أفرقازيس يجحل وصوثيس ويا لا 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 ويا لا 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 ويا لا 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 ويا لا 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 يا لا 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 هذا فيرا وذرار النظام يا تراجوني يا رفيق ور اللي غرا وحده أنا الدوخي الوحيد أنا زقر البربلي صل بارود وغني يا تغنين يا تغنين أتغنين يقحل والصوت نسن ويا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 يا لا لا لا
Merci.